Mardi 23 juillet 2019, Monsieur Dame, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information du studio Kalangou à la présentation de Fils Adam Sirfo. Les titres de ce journal, les 560 pèlerins nigériens sont finalement partis de Niamey hier pour le Hajj. Ils ont pris le premier vol d'une série de 18 rotations visant à acheminer l'ensemble des 13 468 pèlerins nigériens en Terre Sainte. Des précisions avec l'organisateur du Hajj dans un instant. La société civile nigérienne bénéficie en ce moment à Niamey d'un renforcement de connaissances sur le dispositif institutionnel et le mécanisme de l'UMOA, une initiative du programme d'appui à la société civile PASOC3. Dans le département de Kanché, région de Zender, les semis sont effectifs dans la quasi-totalité des villages agricoles, ce qui présage d'une bonne campagne agricole selon le directeur départemental de l'agriculture de Kanché, c'est le magazine d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Les premiers pèlerins nigériens pour le Hajj 2019 ont finalement décollé tard de la nuit d'hier. Ce sont au total 560 passagers à bord de ce premier vol charter, nous a confié le responsable de la cellule communication du Haut Commissariat pour le Hajj et la Umra Koho. Le deuxième vol est prévu pour ce jour à 17h30. Seydou Mame Nassirou précise que les 13 268 pèlerins seront acheminés en 18 vols continus. Seydou Mame Nassirou au micro de Diallo Maria Makenda.
Le second vol est prévu aux environs de 17h. Ça sera aussi 560 pèlerins, Inch'Allah. L'affaire du vol charter, dès qu'on commence, on n'a aucune inquiétude. On n'a aucun problème, c'est presque mécanique. L'avion quitte Niamey, il va à Médine. Il descend les pèlerins, il revient et il reprend. Nous avons 13 268 pèlerins qu'on va acheminer, Inch'Allah, en 18 vols. Dans notre programmation, nous allons acheminer les pèlerins, Inch'Allah, en 17 vols. Mais le 18e vol, c'est ce qu'on appelle le vol de ratissage. C'est-à-dire, on va attendre voir tous les pèlerins retardataires, les membres de la mission et tout ce qui s'ensuit pour les acheminer directement. C'est pourquoi nous mettons le 18e dans le total. Nous allons faire toutes les 48 heures, 3 vols, Inch'Allah, dans des conditions que nous avions prévues, si nous n'avons eu aucun problème. Visiblement, toutes les conditions sont réunies pour que cela soit.
Renforcer la société civile nigérienne sur le dispositif institutionnel de l'Union économique monétaire ouest-africaine et son mécanisme de fonctionnement, c'est l'objectif d'un atelier de partage ouvert ce matin à Niamey et organisé par le programme d'appui à la société civile PASOC3 avec les organisations de la société civile sur les réformes, projets et programmes de l'UMOA au Niger. Les explications du représentant du PASOC3, Ibrahim Dem, au micro de Moussa Hassan.
La société civile doit comprendre toutes ces réformes initiées au niveau de l'UMA, comment elles sont mises en œuvre au niveau de l'État. Quels sont les défis à relever par le gouvernement pour véritablement que ces réformes soient réellement applicables. Parce que toutes ces réformes vont dans le sens de l'intérêt des citoyens. La société civile a un rôle à jouer dans la vulgarisation de ces réformes, les réussites, les contraintes, les difficultés, pour qu'ensemble on puisse identifier les mécanismes qui nous permettent que ces réformes-là soient véritablement... L'autre aspect, c'est sur les politiques publiques sectorielles. Donc l'UMA intervient dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Alors nous voulons aussi que la société civile comprenne davantage comment ces politiques sectorielles sont mises en œuvre et comment, au sortir de cet atelier, on peut mettre en place un mécanisme pour une meilleure implication des organisations de la société civile dans le suivi et évaluation des politiques publiques sectorielles pour une amélioration des politiques publiques.
Les ONG nationales sollicitent du gouvernement nigérien des exonérations fiscales et douanières. Elles ont lancé cet appel ce matin à Niamey à l'occasion d'une rencontre entre le comité interministériel et les représentants des ONG nationales et internationales intervenant au Niger. La rencontre a pour objectif de passer en revue les activités menées par ces organisations dans les différents secteurs du Niger en 2018. Abdou Mamo Lokoko, coordinateur du ROSEN au micro de Moussa Hassan.
Il s'agit du bilan des interventions des ONG à Assassin Développement pour l'année 2018. D'abord, les réalisations physiques, c'est-à-dire ce que les ONG à Assassin Développement ont fait sur le terrain. Ensuite, les réalisations financières. Qu'est-ce que les ONG ont investi à travers l'étendue du Niger, donc par rapport à leurs activités, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la santé, l'hydraulique, ainsi de suite. Le ministère a sérié un certain nombre d'activités qui lui sont parvenues à travers des rapports annuels que les ONG ont obligation de déposer auprès du ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, où il ressort que plus de 140 milliards de francs CFA ont été investis en 2018 par les ONG contre des exonérations d'une valeur de 2 milliards et quelques. Donc les ONG accompagnent le processus, accompagnent l'État dans plusieurs domaines, mais toutes ces exonérations qu'on donne, elles ne sont pas données aux ONG nationales. Et c'est pour ça que nous lançons un appel auprès du gouvernement pour que ce blocage-là soit levé.
Depuis quelques mois, les vols d'enfants et meurtres ont cours dans la ville de Tawa. Le dernier cas enregistré le 16 juillet est le corps d'un enfant de 9 ans retrouvé à côté du mur de l'école Ibn Boutata dans le centre-ville. Le directeur régional de la police de Tawa, Ilia Lalo, appelle la population à dénoncer tout cas suspect sans aucune crainte. Il est au micro de Abdoulaye Aoussouk.
Il faut bien que les gens comprennent que la police, là, comme je l'ai dit, elle est là, elle appartient à tout le monde. Et sans cette population-là, la police n'est rien. Maintenant, toute personne vraiment qui apprend quelque chose par rapport auquel elle est censée venir nous informer, en tout cas, elle doit dénoncer et qu'on sache qu'on n'a rien à craindre. Parce que la police fait son boulot, elle fait son enquête. Le nom de celui qui est venu là dénoncer ne peut pas sortir dans l'enquête ou dans la procédure. C'est pas possible que les gens le comprennent. Si nous faisons ça, mais ça veut dire que nous ne sommes pas professionnels. Donc vraiment que les gens comprennent qu'ils sont censés venir dénoncer quiconque, en tout cas, se trouverait être suspect au niveau de la police et sans aucune crainte. En tout cas, j'interpelle le bon sens des uns et des autres de tout faire pour continuer à nous aider, donc à dénoncer tout fait suspect.
En bref, dans une enquête menée par sa rédaction, RFI révèle l'implication directe des forces spéciales françaises dans la poursuite du groupe ayant kidnappé puis assassiné deux journalistes français en 2013 au Mali, en contradiction avec la version officielle de l'armée française. Reporters sans frontières demande que l'enquête fasse toute la lumière sur le déroulé des événements. Dans un communiqué de presse publié hier lundi, RSF voudrait savoir exactement quel rôle les forces françaises ont-elles joué le 2 novembre 2013 lorsque les journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés près de Kidal dans le nord du Mali 5 ans et demi après les faits. Toujours en bref, jeudi s'est achevée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan cacao conçu en 2013. C'est un vaste programme ouest-africain qui œuvre à la construction d'un espace économique stable, compétitif et équilibré entre les zones côtières et celles enclavées. Organisé par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 1400 milliards de francs CFA ont été annoncés par la BOAD, la coopération japonaise JISA, ainsi que les membres du secteur privé de la sous-région des financements à l'issue de cette table ronde. Réduire l'utilisation du bois de chauffe utilisé pour la grillade des moutons le jour de la fête, c'est l'objectif des jeunes volontaires ainsi que des artistes engagés pour l'environnement à travers une campagne dénommée Tabaski Écolo lancée le dimanche 21 juillet 2019 à Niamey. Selon le coordinateur du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique, des tonnes de bois sont utilisées à l'occasion de cette fête, d'où la nécessité de se pencher vers d'autres alternatives pour préserver notre environnement. Issa Karba, que je vous propose d'écouter.
À l'occasion de cette fête de Tabaski, des tonnes et des tonnes de bois sont utilisées pour juste la cuisson des moutons. Donc c'est pourquoi nous amenons les citoyens à comprendre les impacts de cette action sur l'environnement et à revoir comment nous pouvons célébrer cette fête sans pour autant faire des impacts négatifs sur notre cadre de vie ou bien sur notre environnement. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et de promotion d'un certain nombre de sources d'énergie pour pouvoir faire la cuisson de ces moutons-là. La première alternative, c'est l'utilisation du charbon minéral, parce que le charbon minéral, nous en avons en grande quantité et nous exploitons ça, et c'est encore moins cher. Pour la cuisson, nous préférons que les femmes utilisent non seulement le gaz, ou bien le four à balle de riz, dont la source d'énergie est la balle de riz. La campagne Tabaski Écolo, nous sommes à la 3e édition. L'année passée, ça a connu un grand succès. La ville de Niamey, les gens ont utilisé jusqu'à ce que le charbon était même en rupture. Et cette année, nous allons créer les conditions réunissons pour former et sensibiliser les gens par rapport aux techniques d'allumage de ce charbon minéral.
Dans le département de Dogandouchi, à la fin de la deuxième décade de juillet, tous les villages ont effectué les semis avec des ré-semis par endroits et des postes pluviométriques excédentaires. Déjà, des infestations de sautéro sont enregistrées sur 150 hectares selon Ousmane Garba Chouaké, le responsable de l'agriculture de Dogandouchi au micro de Abdelaziz Danyuma.
Pratiquement tous les villages ont effectué les semis du mil. Cette année, par rapport à la pluviométrie, c'est ce que nous pouvons dire, à la date de la fin deuxième décade du mois de juillet, le cumul se présente avec un excédent au niveau de tous les 6 postes pluviométriques que nous nous suivons de façon régulière au niveau du département. Pour ce qui est des stades phénologiques, pour le mil, le stade le moins avancé, c'est vraiment la levée avec 35%. Le stade le plus avancé, nous avons la montaison, voire début nouaison, donc avec 9%. Par rapport aux légumineuses, le stade le moins avancé et le plus dominant, c'est la levée, 48%. Et le stade le plus avancé, c'est la croissance, voire de ramification, 23%. Pour la situation phytosanitaire, nous avons enregistré à la date d'aujourd'hui des superficies infestées qui font à peu près 150 hectares, dont 125 hectares ont été déjà traités. Le reste, ça suit. Les ravageurs qui ont été identifiés ici, c'est les sauteriaux en stade de larve.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Place à présent à la partie magazine de ce journal. Dans le département de Kanché, région de Zender, 86% des villages agricoles sur les 293 villages ont semé dès juin, selon le directeur départemental de l'agriculture du département. Les semis sont effectifs dans la quasi-totalité des villages agricoles. Magaji Chemou, au micro de notre envoyé spécial Mokhtar Hamadou.
La campagne agricole évolue normalement dans le département de Kanché. Les semis sont à l'état de levée avancée dans certaines parties du département, explique le directeur départemental de l'agriculture de Kanché, Magaji Chemaou.
Nous avons reçu des semences d'urgence au profit des villages, donc déficitaires à plus de 50% à la sortie de l'hivernage 2018. Donc nous avons reçu 10 tonnes, dont 7 tonnes de mil, 2 tonnes de sorgho et puis 1 tonne de nibé. Ensuite, il y a eu des partenaires aussi comme la FAO aussi qui a appuyé en semences. Il y a des zones extrêmement vulnérables telles que la commune de Daouché qui a profité des semences. Il y a les communes de convergence aussi telles que donc Kanché et puis Yaouri aussi qui ont bénéficié donc des quantités de semences importantes, donc de mil, de sorgho et de nibé. En ce qui concerne donc le dispositif en personnel, là nous avons 9 communes. Il y a 4 communes qui sont occupées en agent. Donc vraiment, il reste en tout cas 5 communes qui ne sont pas occupées. En ce qui concerne donc les produits phytosanitaires, nous avons des produits, en tout cas pour faire face donc à des éventuelles attaques parasitaires. En ce qui concerne le déroulement de la campagne agricole, la campagne en tout cas se déroule bien. Et nous avons reçu en tout cas des précipitations utiles, donc qui ont permis de faire les semis donc à l'échelle donc du département. Nous avons à cette date un taux de couverture donc de 86% donc des villages qui ont semé sur 293 villages. Donc la situation en tout cas évolue normalement. Nous avons le mil déjà donc qui est au stade donc levé, avancé selon les différentes dates de semis. Ensuite les autres spéculations donc sont en cours de semis, l'arachide et le nibé.
Monsieur le directeur, si les tendances des pluies régulières se maintiennent, peut-on présager une bonne campagne agricole ici dans le département du Kanché?
Bien sûr, on peut présager en tout cas une bonne campagne agricole, mais nous ici dans le département du Kanché, notre grand problème, c'est la pauvreté des sols. Quand il y a des fortes pluies, on assiste souvent à un problème de lessivage des sols, que là, les cultures n'arrivent pas à se développer correctement. Par rapport à cela, donc, nous avons toujours sensibilisé les producteurs et nous continuons toujours à sensibiliser les producteurs donc, à faire des apports, intensifier les apports de la matière organique, puisque c'est ça qui peut solutionner le problème donc, de cette pauvreté du sol.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés sur nos 38 radios partenaires dans tout le Niger. Je vous laisse en compagnie de Mokhtar Hamadou pour le forum du studio Kalangou. Ce soir, lui et ses invités nous parlent de la grillade à l'occasion de la tabastie au Niger. Quelle alternative utiliser face à l'utilisation du bois de chauffe? Bonne écoute.